14 sur Lux Radio. Et oui, vous l'avez entendu, nous sommes avec Hichem Benavastarji, gynécologue obstétricien à Casablanca, qui nous a rejoint pour votre rubrique hebdomadaire Mon corps, ma vie. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, justement, il est question du syndrome de la congestion pelvienne, un vaste programme. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur l'application Lux Radio.
Bonjour docteur.
Bonjour, toujours un
Parmi
plaisir.
Merci, plaisir partagé. Parmi les raisons qui nous ont poussé à choisir ce sujet, il y a le fait qu'on confond souvent, on était en train d'en discuter justement pendant la pause, on confond souvent le syndrome de congestion pelvienne avec l'endométriose. C'est aussi, et on reviendra là-dessus, le fait que ce syndrome se soigne très bien. Le souci réside dans le diagnostic. Mais on ne va pas brûler les étapes. D'abord, le syndrome de congestion pelvienne est une cause fréquente, nous dit-on, de douleurs pelviennes chroniques. Par pelvienne, on entend les organes en dessous du bassin, donc les organes génito-urinaires. Certaines études, docteur, appuient le fait que la plupart des femmes qui ont un syndrome de congestion pelvienne sont âgées de 20 à 45 ans, c'est extrêmement large, et ont eu plusieurs grossesses. Comment se manifeste ce syndrome, docteur, si vous permettez, quels sont ces symptômes?
Alors, bravo pour cette introduction et merci pour le choix, justement. Pourquoi est-ce qu'on peut la confondre avec l'endométriose? Parce que toutes les deux se manifestent par des douleurs chroniques dont on n'arrive pas à faire le diagnostic. Et c'est justement ça. On a découvert, même nous, les médecins, et on ne connaît pas bien ce syndrome de la congestion, ou les varices pelviennes, c'est l'équivalent des varicocèles chez les hommes. D'ailleurs, c'est-à-dire la dilatation des veines du pelvis gonadique et les veines qui drainent tout le pelvis, notamment la veine hypogastrique. Alors, comme c'est profond, on ne sait pas bien la diagnostiquer, et ça va donner des douleurs qui vont traîner, qui sont très variables aussi. Elle peut être juste persistante, une petite gêne, elle peut être unilatérale d'un côté, pas de l'autre, elle peut évoluer par poussée, c'est très difficile. Et il peut y avoir d'autres causes de douleurs, je dirais, juste la colopathie fonctionnelle, c'est l'intestin qui est irritable, qui peut donner également des douleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nomadisme médical, les gens ne trouvent pas forcément, on n'arrive pas forcément au diagnostic.
Donc, en tout cas, ce syndrome de congestion pelvienne part, vous le disiez, docteur, d'une dilatation des veines de l'utérus ou des ovaires qui cause justement ce qu'on en appelle, vous l'avez dit, des varices pelviennes. Il n'y a pas de différence à faire scientifiquement entre l'endométriose.
Ah, il y a une grande différence. L'endométriose, c'est quoi? C'est la migration d'un endomètre qui n'est pas à sa place et qui vit. Ces douleurs qui vit donc avec les hormones et donc qui va donner des douleurs au moment des règles, c'est surtout ça. L'endométriose, c'est une douleur au moment des règles, ce qu'on appelle cataméniale, alors que le syndrome de congestion pelvienne, c'est de la pesanteur qui est tout le temps là. Pourquoi? Parce que les veines ne fonctionnent pas bien et donc il y a de la pesanteur, il y a une gêne. Voyez, et cette gêne peut être plus ou moins importante, mais la grande différence, je dirais, des douleurs, c'est que l'endométriose, elle donne des douleurs au moment des règles.
Très bien.
Alors que le syndrome de congestion pelvienne donne des douleurs permanentes. Et
voilà,
c'est des douleurs chroniques durant 6 ans.
Voilà une différence majeure entre les deux,
voilà.
L'endométriose et
tout à fait.
Le syndrome de congestion pelvienne. Oui.
Alors, le diagnostic a été vraiment évoqué depuis les années 90. On faisait beaucoup de cœlioscopie et on a découvert justement des paquets variqueux, c'est-à-dire de grosses veines. Quand on fait la cœlio, on voit ça. Et donc, pourquoi vous l'avez très bien dit en introduction, ça survient souvent chez les femmes qui ont plusieurs grossesses, parce qu'il y a des causes qui ont fait que ces veines se sont dilatées et ne remplissent plus leur rôle.
Très bien. Donc, il y a un lien à faire avec de multiples grossesses.
Oui, justement, parce qu'il y a une altération de ces veines qui va faire ça. Il y a aussi des fois une cause particulière, par exemple ce qu'on appelle la rétroversion utérine, c'est-à-dire un utérus qui est tordu vers l'arrière et qui peut donc gêner le retour veineux, ou à la rigueur des adhérences. L'endométriose est aussi une cause de varices parce que ça peut donner des adhérences qui vont bloquer le retour veineux et donc empêcher un bon drainage veineux.
Nous sommes en compagnie de Hichem Benabastarji, gynécologue obstétricien ici à Casablanca, et on parle du syndrome de congestion pelvienne. Justement, en parlant de diagnostic, docteur, le diagnostic du syndrome de congestion pelvienne, il faudrait d'abord, nous dit-on, je parle sous votre contrôle, que la douleur soit présente pendant
Au moins 6 mois.
6 mois,
oui,
c'est énorme, plus de 6 mois. Et que les ovaires soient douloureux lorsqu'on les examine.
Tout à fait. Ben,
c'est énorme. C'est-à-dire qu'une femme doit patienter. Enfin, comment ça se passe? Il faut qu'une femme patiente pendant 6 mois.
C'est très bien. Non, c'est pas ça. Pourquoi on explique la difficulté du diagnostic? C'est que c'est pas quelque chose qui est apparent. Et c'est pas quelque chose aussi que beaucoup de médecins connaissent.
Oui.
Donc il faut au contraire sensibiliser la population, sensibiliser aussi les médecins par rapport à ça. Je vous dis, le diagnostic, on l'évoque quand c'est une femme qui a des douleurs chroniques, qu'on n'arrive pas à étiqueter, à dire c'est ça,
oui.
D'accord. Ça peut être associé à un examen clinique où on va voir des varices de vulvaire, des varices au niveau des jambes, où donc la dame a des varices, et là, c'est là où on se dit il y a un terrain variqueux qui est là, puisque cutané on le voit, mais ce terrain variqueux peut manquer. Voyez, et c'est difficile de faire le diagnostic.
Oui, justement, comment on fait pour certifier le diagnostic? Est-ce que l'échographie est suffisante?
Alors, l'échographie, c'est pas l'échographie, c'est le Doppler. D'accord. C'est l'échographie Doppler, c'est-à-dire l'échographie, c'est les ultrasons. Je voulais juste, avant de parler du diagnostic, autre chose, c'est ça peut être responsable de dyspareunie, de douleurs au moment des rapports sexuels. Ça peut être des différentes douleurs qui sont gênantes. Le diagnostic, il faut y penser. On va l'évoquer quand on va faire une échographie. Et on va voir des paquets noirâtres, parce que le sang apparaît noir pendant donc à l'échographie, dans lequel on va allumer le radar, je dirais pour moi le Doppler, qui va montrer le flux sanguin. D'accord? Et donc qui va montrer, puisqu'il y a du sang qui passe, et ben donc c'est un réseau veineux. Voyez? Et on va voir cela, et on va voir que ce flux, est-ce qu'il est normal? Alors quand le flux est... Alors déjà, on va voir la taille de la veine. Est-ce qu'elle est dilatée ou pas?
D'accord.
C'est ça qui signe ce qu'on appelle le varicocèle, la dilatation.
Oui.
Et après, est-ce que le flux passe ou ne passe pas? Parce que tout le problème de ces congestions, c'est le fait que justement, il y a du sang qui stagne et donc qui fait mal. Après, une fois que on a fait ce Doppler, qu'on a vu ce flux, généralement quand il y a un flux qui est supérieur à 10 cm seconde, eh ben il y a un passage et donc il y a les varices sont asymptomatiques. Ça commence à devenir symptomatique quand le flux est réduit et qu'il ne bouge plus par rapport à la respiration par exemple, et on le voit, donc on voit que le flux est réduit, et quand le flux est vraiment, il n'y a pas de flux, c'est-à-dire que le sang est vraiment piégé et stagne au niveau de ses veines, ça donne cette douleur. Donc le diagnostic est d'abord fait à l'échographie, suspecté à l'échographie, il peut être confirmé par la cœlioscopie ou bien par ce qu'on appelle des phlébographies, c'est-à-dire des injections des veines et prises de radiographie des veines avec opacification.
Alors là, vous parliez de diagnostic. Sarah laissait entendre qu'il fallait quand même une période de 6 mois de douleur, donc c'est pas négligeable. On va dire pour que ce soit... diagnostiqué. Juste pour aller dans ma logique, voilà, vous disiez que ce n'était pas quelque chose de forcément apparent. Pourquoi, du coup, certaines femmes développent des symptômes? Alors là, en fait, c'est la question de la prévention. Comment prévenir ça, finalement?
Difficile de prévenir parce qu'on ne sait pas pourquoi on développe. Je vous dis, dans certains cas, il y a une cause, une rétroversion utérine, des adhérences, et on peut aller opérer pour libérer ces choses qui bloquent le retour veineux. Donc on va déboucher un peu, je dirais, ces veines, ou débloquer qu'est-ce qui coince ces veines. Mais c'est pas tout le temps. La plupart du temps, on ne sait pas pourquoi est-ce que cette femme, même qui a accouché 5 fois, va développer un syndrome de congestion ou pas. Et la problématique du...
C'est pas lié, par exemple, à une hygiène de vie, au fait de sportif ou pas?
Non. Bon, le sport est encourageant parce que le sport va favoriser donc le retour veineux de manière générale. L'obésité est un facteur majeur aussi qui pourrait encourager cela aussi, parce que ça, il y a tous les facteurs de stase. Mais encore une fois, on ne connaît pas vraiment les facteurs qui encourage cela.
D'accord.
Et je veux revenir à quelque chose. Pourquoi? C'est pas, il faut 6 mois de diagnostic avant cela. C'est pas ça. La médecine n'est pas une science exacte.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'études là-dessus, et du coup, pour le moment, d'après ce que j'ai compris, il faudrait que la douleur dure chez la femme pendant 6 mois pour qu'on puisse attester qu'on parle de syndrome de congestion.
Non, je ne l'interprète pas comme ça.
D'accord.
C'est une femme qui vient, qui dit j'ai des douleurs. Vous l'examinez, vous voyez que, ben, elle a, par exemple, un côlon irritable. D'accord? Eh ben, vous dites à madame, c'est de la colopathie. Vous donnez un traitement antispasmodique et des charbons pour activer. Ça l'améliore un petit peu, parce qu'il y a peut-être aussi une composante de spastique du côlon, mais elle reste à persister. Elle va changer de médecin. Le médecin, il va aussi voir autre chose. On ne pense pas à cela.
On
ne pense pas à ce diagnostic.
On va dire que c'est la corrélation de plusieurs facteurs Tout notamment celle de la formation des médecins, il faut
tout
dire.
Tout à fait, parce que c'est pas très connu. Je vous dis, ça fait à peine 30 ans qu'on connaît ce syndrome.
Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, docteur Hicham Benabastadji, je le rappelle, vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca et on parle aujourd'hui du syndrome de congestion pelvienne. Vous avez commencé à le dire tout à l'heure, la douleur peut être sourde, mais elle peut être extrêmement aiguë et des fois, elle est aggravée par le fait qu'on reste assise trop longtemps. Ou debout trop longtemps et aussi plus intense pendant ou après les rapports sexuels. C'est ce que vous disiez tout à l'heure et c'est bien de le repréciser à nos auditrices et auditeurs. Oui, allez-y.
Justement, pourquoi ? Parce que c'est justement tout le sang qui stagne. Donc, quand on est en position debout ainsi, le sang stagne en bas et c'est ce sang qui stagne qui fait cette pesanteur, cette douleur. Et quand on se couche, il y a un meilleur reflux vers
ça
l'eau.
Ça soulage un petit peu.
Voilà.
Parlons du traitement, docteur. Quel traitement à suivre ? Et si le traitement médicamenteux ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on procède ?
Alors, il y a eu aussi une révolution par rapport au traitement. Alors, même le traitement, quand vous lisez sur Internet, il y a différentes type de protocole. Il y a des chirurgiens qui vont vous dire, il vaut mieux opérer, essayer de libérer ces adhérences. Il y a d'autres qui vont dire, on va essayer des médicaments, comme par rapport à des progestatifs, l'acétate de médroxyprogestérone, par exemple, pour assécher, je dirais, ce climat œstrogénique des œstrogènes et donc permettre le traitement. Il y en a qui donnent des anti-inflammatoires pour diminuer la douleur. Mais même le traitement a été je dirais, chamboulé, révolutionné par de nouvelles techniques, ce qu'on appelle d'embolisation. L'embolisation, c'est quoi ? C'est rentrer un tout petit tuyau dans une veine, d'accord ? À partir de laine ou à partir du cou, on rentre un petit tuyau, on va aller repérer par ce qu'on appelle radioscopie ces veines qui sont pathologiques, et on va injecter dedans des petites billes ou un ressort, un coil ou bien des petites billes, ce qu'on appelle la sclérothérapie, pour boucher ses veines, et justement éviter qu'elles soient remplies de sang. Le sang trouvera d'autres chemins détournés pour être le sang veineux pour repartir, mais au moins vous allez scléroser.
Un peu comme pour la solution qu'on peut avoir pour les veines dans n'importe quelle autre partie
tout
du
à
corps.
Fait. C'est les mêmes terrains vasculaires de veines qui sont mal qui remplissent mal leur boulot. Et
donc traitement médicamenteux, sinon embolisation.
Embolisation. Voilà.
Très bien. C'est une maladie qui touche, on l'a compris, uniquement les femmes. Elle est sous-étudiée, le diagnostic est négligé, oui docteur.
J'allais dire, ça touche le corollaire chez les hommes,
d'une autre manière.
C'est le varicocèle. Non,
voilà.
C'est le varicocèle, c'est plus connu, c'est la dilatation des veines spermatiques de l'homme, avec de gros cordons veineux au niveau des testicules. Sauf que la différence là, vous les voyez. Vous
d'accord.
Les voyez au niveau
c'est plus
des
facile à diagnostiquer, vous voulez dire.
Vous les voyez directement. Alors que là, au niveau pelvien, c'est plus difficile.
Pour le cas des femmes, le diagnostic est négligé, très difficile, nous disent d'ailleurs plusieurs études européennes. Et il existe un combat, justement, en Europe. On dit qu'il est naturel, entre guillemets, on en discutait tout à l'heure en off, d'avoir mal quand on a ses règles. Alors, des femmes se sont longtemps battues contre cela, puisque c'est l'une des raisons qui ont fait qu'on passait à côté du diagnostic de l'endométriose, par exemple.
Fait.
Est-ce que vous pensez, docteur, qu'on devrait aussi pareillement mener des campagnes comme ça de sensibilisation quant à ce type de maladie pour
bien
qu'on
sûr.
Les connaisse un
bien
petit
sûr.
Peu mieux le syndrome
bien.
De congestion pelvienne.
Bien sûr, justement, il n'y a pas de raison d'avoir mal. Il y a beaucoup d'antalgiques pour soulager les douleurs, la pilule, les différentes choses, mais surtout par rapport à l'endométriose, mais surtout. La médecine se développe, il y a de plus en plus de moyens d'investigation pour arriver au diagnostic. Et comme vous dites, je vous remercie pour votre émission pour cela, pour sensibiliser tant les patientes que donc les auditrices, que les médecins par rapport à des symptômes, des maladies, des entités qu'on ne connaît pas bien parce qu'elles sont de découvertes récentes. Et donc ce n'est que comme ça qu'on pourra arriver à plus les diagnostiquer et donc à mieux les traiter.
Merci beaucoup docteur.
Merci à vous.
Hicham Benabastadji, qui est gynécologue obstétricien à Casablanca, sachez qu'on va retrouver...